Bonjour à tous, c'est une affaire qui a secoué le monde de l'automobile et bien au-delà, l'incarcération au Japon de Carlos Ghosn. Il a finalement été libéré sous caution, mais nous allons nous repencher en particulier sur les mystérieuses filiales néerlandaises du groupe Renault-Nissan, des sortes de boîtes noires, c'est ce que vous nous disiez en avril dernier, Laetitia Schérel, bonjour.
Bonjour.
Nous allons donc rediffuser votre enquête et puis nous réentendrons ensuite Leslie Fauvel. Elle avait enquêté pour France 3 sur Pierre Castel, le pape du vin français, qui est aujourd'hui la 8e fortune de France.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Florence, retour à la case, garde à vue pour Carlos Ghosn.
L'ancien patron de Renault-Nissan, sorti de prison il y a un mois à peine, de nouveau arrêté ce matin.
Voilà, ça c'était sur France Inter début avril. Carlos Ghosn est arrêté pour la deuxième fois. Il est soupçonné cette fois-ci d'avoir détourné de l'argent de Nissan en passant par un intermédiaire à Oman. Et cette accusation s'ajoute à une autre de sous-déclaration de revenus et à d'autres soupçons d'utilisation de l'argent du groupe à des fins personnelles. Alors au cœur de certaines de ces affaires, on trouve plusieurs filiales de Nissan qui sont domiciliées aux Pays-Bas. C'est donc là que nous avons décidé de centrer nos investigations. Et on va commencer par le commencement. Laetitia Schérel, expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a donc comme filiale de Nissan aux Pays-Bas.
Alors, on va s'intéresser à la première qui s'appelle ZIA BV. C'est une sous-filiale de Nissan qui a été créée au départ pour soutenir des start-up. Mais Nissan s'est aperçu que cette filiale avait acheté 4 appartements et maisons de luxe au profit, semble-t-il, de Carlos Ghosn. Or, ces achats ne correspondent pas à la mission initiale de cette structure, comme nous l'explique Yann Rousseau, le correspondant du journal Les Échos au Japon.
En théorie, ZIA avait été conçu pour investir dans des nouvelles technologies. C'est ça qui avait été raconté à Nissan. Or, on se trouve que ZIA, finalement, est un espèce de groupe d'investissement dans l'immobilier au bénéfice de Carlos Ghosn. Donc, il y a ces 4 maisons au Brésil, en Hollande, à Paris et à Beyrouth. Et certaines ont coûté extrêmement cher. Et le montage qui avait été fait passait par ZIA, qui a monté des fonds d'investissement qui étaient intégrés, certains, aux îles Vierges britanniques.
Oui, aux îles Vierges britanniques, autrement dit un paradis fiscal bien connu. Mais on découvre une autre bizarrerie quand on regarde de près comment fonctionne cette structure ZIA, Laetitia.
Oui, il se trouve que cette toute petite structure, qui n'a pas de salariés, est présidée par Carlos Ghosn lui-même. Or, ça aussi, c'est assez surprenant pour Laurent Léger, du service investigation de l'Express, qui s'est procuré des documents internes sur cette filiale en se rendant aux Pays-Bas.
En général, un PDG de cette envergure ne se met pas lui-même à la tête d'une petite filiale, sous-filiale, sous-sous-filiale financière. En général, ce sont des hommes de la direction financière qui prennent ce type de poste et qui vont signer les papiers des assemblées générales, etc. Là, c'est pas le cas, c'est Carlos Ghosn en personne. Donc évidemment, ça pose question là encore.
Ouais, ce qui pose aussi question, Laetitia, c'est la maison de Beyrouth qui, elle, a été achetée par ZIA et qui a coûté plusieurs millions d'euros.
Oui, Beyrouth au Liban, pays de naissance de Carlos Ghosn, où il a conservé de nombreuses attaches. Cette maison est magnifique, elle a été entièrement payée et rénovée par Nissan. Le journaliste de l'Obs, Clément Lacombe, nous la décrit.
C'est une magnifique maison qui a été payée 9,5 millions de dollars, auquel s'est rajouté 7,2 millions de dollars de rénovation. 5 étages, cave à vin, salle de gymnastique. Il y a 2 lustres à 65 000 dollars qui ont été payés bien sûr par Nissan. Et il y a pendant les travaux, les ouvriers ont mis à jour de vieux sarcophages. Et donc, il a été installé un sol transparent pour que les personnes dans la maison puissent admirer les sarcophages.
Autrement dit, c'est quasiment une maison musée. Et ce qu'il faut aussi raconter, Laetitia, et qui est assez étonnant, c'est la façon dont Nissan aurait eu vendre cet achat.
Oui, les dirigeants de Nissan sont tombés sur des courriers du couple Ghosn concernant des factures impayées de cette maison, comme le raconte encore Yann Rousseau des Échos.
Carlos Ghosn et son épouse actuelle, Carole, plaignaient que les décorateurs d'intérieur et les designers des lustres notamment n'étaient pas payés assez vite et qu'il y avait de mauvaises rumeurs chez les voisins parce que soi-disant des designers s'étaient plaints et donc ils avaient manifesté leur mécontentement auprès des personnes de Nissan qui s'occupaient spécifiquement de cette maison en disant qu'est-ce que c'est, vous n'avez pas payé les factures. Donc Nissan dit mais nous on n'a jamais su qu'on s'occupait d'un palais à Beyrouth, d'un superbe appartement au Brésil, de l'appartement de Carlos Ghosn à Paris et aussi de l'appartement en Hollande. Et en plus de ça, Carlos Ghosn avait quand même une allowance. Donc une allowance, c'est quand votre entreprise vous donne un budget pour vous loger, pour quand vous êtes son patron.
Ah oui, autrement dit, il aurait cumulé une indemnité de logement avec toutes sortes d'habitations payées par le groupe. Et lui, comment il justifie ça?
Eh bien, il le justifie par des raisons professionnelles et des nécessités de représentation.
Le Brésil, l'appartement, il explique que ça correspond à une époque où Nissan a monté en gamme, en production, et qu'il avait besoin d'être plus là-bas, qu'il avait besoin de représentation, il avait besoin de rencontrer des personnages politiques, d'organiser des événements. Donc pour lui, c'était très important d'avoir un lieu digne du groupe. Paris, voilà, il y avait la présence, bon, il y avait Renault, il y avait beaucoup de réunions. Et sur Beyrouth, il dit, ben oui, c'était la, on avait beaucoup d'ambition sur le Moyen-Orient, et Beyrouth, c'était l'endroit, la plateforme idéale pour rayonner sur l'ensemble de la région, et c'était normal qu'on ait un lieu pour travailler.
Donc Carlos Ghosn justifie, lui, ses investissements. Mais ça a toujours fonctionné comme ça chez Renault?
Alors pour le savoir, nous avons demandé à un ancien dirigeant quelle avait été la règle en matière de logement des PDG dans le passé. Et voici ce qu'il nous a répondu, tout en demandant à rester discret. Nous avons donc fait lire sa réponse.
Louis Schweitzer avait acheté un appartement dont il payait les frais. Les PDG, normalement, ne sont pas logés par la boîte. Ce qui est vrai, c'est que quand Ghosn a été envoyé au Japon, Nissan lui a fourni un logement parce qu'il était expatrié. Si un patron est logé par sa boîte, ce doit être déclaré comme avantage en nature.
Et c'était déclaré comme avantage en nature?
Alors ça, on ne le sait pas. La justice japonaise ne s'est pas encore penchée sur ce sujet.
Ouais, donc à suivre. Alors ça, c'est pour la filiale qu'on appelle ZIA et l'affaire des logements. Maintenant, Nissan a une autre filiale aux Pays-Bas, Laetitia, à part égale cette fois-ci avec Renault. Et elle aussi pose question.
Oui, elle s'appelle RNBV pour Renault Nissan BV.
Et c'est quoi RNBV?
C'est une filiale de Renault et de Nissan créée en 2002. Au départ, c'est une coquille vide qui chapeaute l'alliance mise en place entre les deux constructeurs quelques années plus tôt.
Ouais, mais plus concrètement, cette coquille vide, elle sert à quoi?
Eh bien, un peu à tout. Elle peut décider des choix stratégiques et financiers de l'alliance, mais elle centralise aussi les achats des deux constructeurs, comme l'explique Pierre Allanche, un ancien ingénieur CFDT et ancien administrateur de Renault.
Les premières décisions pratiques qui ont été prises et qui ont impliqué Renault Nissan BV ont été la création de la direction des achats et la direction de l'informatique. Et l'optimisation des achats de Renault et des achats de Nissan en étant mis en commun représentait une augmentation de volume qui avait tout de suite une efficacité extraordinaire dans la rentabilité des deux entreprises.
Ouais, donc sur le papier, on peut en comprendre l'utilité, sauf que le fonctionnement de RNBV va devenir de plus en plus opaque.
Oui, au démarrage par exemple, on dit clairement chez Renault quelles sont les rémunérations accordées aux membres du directoire de RNBV. Mais assez vite, on ne sait plus ce qui s'y passe. C'est ce qu'a constaté encore Pierre Allanche en épluchant les rapports annuels de Renault.
Le rapport annuel de Renault détaillait les éléments de rémunération qui étaient dus au sein de Renault Nissan BV. Ensuite, en 2006 ou 2007, je me suis aperçu que les montants n'existaient plus dans le rapport. Et en 2012 ou 2013, il n'y avait plus aucune indication sur les rémunérations des gens de Renault ou de Nissan par RNBV.
Ouais, donc plus le temps passe et moins on sait ce qui se passe à RNBV. Mais pourquoi, Laetitia? Qu'est-ce qu'on aurait à cacher?
Disons qu'il y a des dépenses qui pourraient laisser perplexe.
Par exemple?
Eh bien, il y a eu cette grande soirée organisée à Versailles. Et je ne parle pas là du fameux mariage de Carlos Ghosn, sur lequel le parquet de Nanterre enquête déjà. Non, je parle d'une autre soirée, peut-être encore plus fastueuse, qui s'est déroulée 2 ans plus tôt, le 9 mars 2014. C'était pour les 15 ans de l'alliance entre Renault et Nissan. On trouve peu de traces de cet événement dans la presse française, mais une chroniqueuse d'un quotidien libanais s'en est fait l'écho. Et écoutez la description qu'elle en a faite, nous en avons fait lire un extrait.
En haut des escaliers du château, le roi de la fusion de l'automobile française et japonaise et Carole Naas recevaient dimanche soir 160 invités, dont Chéri et Tony Blair, des sénateurs américains et de nombreux amis libanais. Depuis les hallebardiers qui montaient la garde, les demoiselles d'honneur en habit d'époque qui escortaient les invités pour la visite des appartements royaux, jusqu'aux agapes royales supervisées par Alain Ducasse, avec en apothéose un fabuleux feu d'artifice. La nuit, Renault et Nissan de Carlos Ghosn présentaient une allure à la fois royale et républicaine.
Donc c'est effectivement une soirée donnée, on l'entend avec Fast. Mais ça coûte combien une soirée pareille?
630 000 euros au total, dont 160 000 rien que pour la location d'une galerie et d'un salon du château, plus le transport des invités, tout ça réglé intégralement par RNBV.
Mais pourquoi c'est RNBV qui paye?
Alors c'est toute la question. Officiellement, la soirée est un événement professionnel. Le carton d'invitation précise bien qu'elle est organisée pour fêter les 15 ans de l'Alliance avec les partenaires de Renault et de Nissan. Sauf que, quand on regarde de plus près, on peut se demander si c'était vraiment le cas.
Et pourquoi?
Eh bien parce que la date du 9 mars coïncide avec l'anniversaire de Carlos Ghosn et pas avec celui de l'Alliance qui a été créée, elle, un 27 mars. Et puis, quand on regarde la liste des invités, on voit très peu de membres de l'Alliance et beaucoup de proches de la famille Ghosn. C'est ce qu'a relevé Clément Lacombe, mon confrère de l'Obs.
Sur les 104 invitations pour deux personnes qui ont été lancées, il n'y avait que deux salariés de Renault-Nissan qui étaient présents ce soir-là. Principalement, ce sont des relations de Carlos Ghosn, hommes politiques qu'il a croisés au fil de sa vie. Il avait aussi envoyé une invitation à un des patrons de l'université de Stanford où ses quatre enfants ont fait leurs études. Et d'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est qu'il y avait la belle-mère de Carlos Ghosn, il y avait ses enfants, il y avait les enfants de son épouse, il y avait la personne avec qui il fait du vin au Liban, il y avait le proviseur du lycée où Carlos Ghosn a étudié. Après, on retrouve l'architecte d'intérieur qui a fait la maison de Beyrouth, on retrouve des gens comme ça.
Ouais, tout ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'il y avait donc beaucoup d'amis. Mais est-ce qu'on peut, Laetitia, parler pour autant d'une soirée privée?
En tout cas, ce qui paraît surprenant, c'est qu'à deux exceptions près, les membres actuels ou passés de l'Alliance n'ont pas été invités. Et ça, ça laisse perplexe cet ancien dirigeant qui m'a parlé sous le sceau du secret.
Si on fait un anniversaire de l'Alliance, il y a des invités naturels qui sont les membres du directoire de l'Alliance et son créateur, Louis Schweitzer. Et que si ces membres ne sont pas conviés, c'est que l'événement majeur n'était probablement pas l'anniversaire de l'Alliance, mais l'anniversaire de Carlos Ghosn.
Ouais, ce qui changerait effectivement la donne, mais si c'était bien le cas, Laetitia, ça voudrait dire que RNBV, filiale de Renault-Nissan aux Pays-Bas, aurait pu financer une soirée privée à Versailles?
C'est possible, et d'ailleurs les premières conclusions d'un audit qui a été commandé par Renault et Nissan retiennent justement cette hypothèse. Ce rapport, nous en avons eu connaissance.
Et qu'est-ce qu'il en dit, Carlos Ghosn?
Alors, lui ne s'est toujours pas exprimé là-dessus, puisqu'il est toujours au Japon. J'ai sollicité le service de communication de Renault, ainsi que la conseillère en communication de Carlos Ghosn, Anne Meo, et aucun n'a voulu s'exprimer à ce sujet. De son côté, son avocat, Maître Le Borgne, a fait savoir qu'il était normal d'inviter certains amis dans des soirées à caractère professionnel. Mais je vous propose d'écouter Clément Lacombe de l'Obs, qui avait enquêté sur le sujet en janvier dernier.
Ce que les proches de Carlos Ghosn disent, c'est que ça lui semble pas anormal d'avoir quelques invités personnels à ce genre de soirée. Et eux, ce qu'ils disent, c'est en fait, il y a eu une vraie fête d'anniversaire pour Carlos Ghosn le lendemain à la maison de Tokyo. Moi, de ce que je sais, c'est qu'il y avait un très petit nombre de personnes le lendemain. Là, c'était la grande fête, c'était vraiment à Versailles.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, continuons de voir à quoi servait RNBV, la filiale néerlandaise de Renault-Nissan aux Pays-Bas. Elle ne faisait pas que régler des événements somptueux, Laetitia Schirel. Elle rémunérait aussi des consultants.
Alors, disons-le, qu'une entreprise fasse appel à des consultants, c'est courant. Ce qui étonne, c'est la part que les frais de consultants représentent dans le budget de RNBV. Nos confrères de l'Express se sont aperçus qu'en 2015, la société avait dépensé 22 millions d'euros en frais de consultants et 19 millions en 2016, ce qui représente environ un tiers du budget de cette filiale.
Et ils ont servi à quoi ces millions?
Alors on n'a pas plus de détails pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que parmi les consultants payés par cette filiale des Pays-Bas figure le criminologue français Alain Bauer, qui a été notamment le consultant de plusieurs présidents de la République française. Et selon Laurent Léger de l'Express, il aurait reçu 200 000 euros par an depuis 2011.
Mes sources m'indiquent que Alain Bauer bénéficiait de 200 000 euros d'honoraires de la part de RNBV à Amsterdam, notamment en 2013-2014, en plus des 40 000 euros perçus de la part de Renault Algérie et d'une autre société du groupe.
Bon, et Alain Bauer, il en dit quoi de ses rémunérations?
Je lui ai proposé de l'interviewer, mais il a préféré m'envoyer des réponses succinctes par mail. Il reconnaît avoir travaillé pour RNBV en 2011 pour restructurer la direction de la sécurité et mettre au point une charte d'éthique, et puis travailler pour Renault aussi. Mais il dément ce chiffre de 200 000 euros par an qu'il aurait perçu à partir de cette date-là.
Mais 200 000 ou un autre chiffre, Laetitia, de toute façon, c'est pas interdit, ça.
Non, ce qui pose question, c'est d'abord que l'audit dont je vous parlais n'aurait pas trouvé de trace écrite de son travail, à l'exception d'un rapport rédigé en 2011. Une information que conteste Alain Bauer. Mais quand bien même ce travail aurait existé, pourquoi avoir été payé par une filiale de Nissan alors que l'essentiel de sa mission semble avoir concerné Renault? Alain Bauer explique que ses missions se sont bien étendues à Nissan, mais plusieurs dirigeants de RNBV que j'ai contactés ignoraient ça.
Donc à suivre là également. Et puis la même question se pose pour une autre personnalité, Laetitia Chérel. Il s'agit là de l'ancienne ministre Rachida Dati.
Oui, à la même époque, elle a perçu 600 000 euros sur 3 ans en tant qu'avocate de RNBV.
Mais là encore, où est le problème?
Le problème, c'est que là aussi, selon nos confrères des Échos, on n'aurait pour le moment aucune trace écrite de son travail. Ensuite, il y a le timing. En 2011, Nicolas Sarkozy est encore au pouvoir et le journaliste Laurent Léger de L'Express se demande si l'emploi d'une proche du président n'aurait pas eu une utilité politique pour Carlos Ghosn.
On se souvient qu'en 2011, Carlos Ghosn n'était pas bien vu à l'Élysée. Il s'entendait très mal avec Nicolas Sarkozy. Il y a eu l'affaire dite des faux espions. Tout ça a énervé au plus haut point le président de la République. Et peut-être que RNBV aurait pu servir à rémunérer des gens proches de l'entourage qui auraient pu rendre des services, et histoire de se remettre un petit peu l'Élysée dans la poche. C'est une hypothèse.
Oui, une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, mais qu'en dit l'intéressée elle-même?
Elle n'a pas répondu à nos messages, mais son avocat, Maître Pardo, confirme dans un courrier qu'il nous a adressé qu'elle a bien travaillé pour RNBV, sans préciser de quoi il s'agissait. Et lui dénonce une campagne de dénigrement qui viserait sa cliente. Nous avons fait lire son mail.
Rachida Dati a été rémunérée par l'alliance Renault-Nissan BV dans le cadre d'une convention conforme aux règles posées par l'Ordre des avocats de Paris. Madame Dati a conseillé, en tant qu'avocate, l'alliance Renault-Nissan BV du 17 février 2010 à février 2013. Elle ignore si Nissan, qui cofinance l'alliance, et Renault-Nissan BV était ou non au courant de sa mission.
Voilà, et on en restera là pour ce qui concerne Rachida Dati. Parce que Laetitia, on va maintenant s'arrêter un moment sur une autre rémunération accordée par RNBV, qui elle aussi a beaucoup surpris au sein de Renault.
Ah oui, comme l'a révélé l'agence Reuters, il s'agit de la rémunération de Mouna Seperi.
Alors, faut expliquer, Mouna Seperi, c'est qui?
C'est une avocate franco-iranienne, une proche de Carlos Ghosn, qui était directrice déléguée à la présidence de Renault et aussi secrétaire de son conseil d'administration. Elle était donc salariée de Renault. Mais en plus de son salaire, elle a reçu 500 000 euros en 5 ans en tant que membre du conseil d'administration de RNBV.
Et c'est anormal, ça?
Renault affirme que non. Une enquête interne a d'ailleurs conclu à la conformité de cette rémunération. Mais plusieurs hauts cadres dirigeants que j'ai rencontrés se sont dit, eux, très étonnés. Parce qu'on leur avait expliqué qu'un administrateur de RNBV ne pouvait pas percevoir de double rémunération. C'est ce qu'affirme aussi Pierre Allanche, l'administrateur de Renault qu'on a déjà entendu.
C'est effectivement par rapport à ce que j'ai connu du fonctionnement de Renault Nissan BV et de son rôle, c'était contradictoire avec ce qui nous avait été dit à l'époque de la création.
Et d'autres anciens dirigeants sont également circonspects. C'est le cas de cet ancien membre du comité exécutif de Renault qui se rendait régulièrement aux réunions de direction de RNBV. Il a été très surpris quand il a appris que Mouna Seperi avait été payé par RNBV. Il tient lui aussi à garder l'anonymat. Nous avons donc fait lire ses propos.
Je ne m'explique pas comment elle a été rémunérée par RNBV. Normalement, personne n'était rémunéré. On était salarié de Renault ou de Nissan et on travaillait pour l'Alliance à charge d'emploi. C'est quoi la contrepartie? Moi, je n'ai jamais eu entre les mains un document d'elle pour RNBV.
Ouais, donc lui ne comprend pas. Et Mouna Seperi, elle, comment elle justifie ça?
Elle n'a pas souhaité s'exprimer, mais son avocat, Maître Marcini, m'a expliqué qu'il était normal que son travail au sein de RNBV ait été rémunéré et que tout cela avait même été voté par le conseil d'administration de Renault. Lui aussi donc considère que sa cliente fait l'objet d'une cabale.
Ces calomnies rapporté d'ailleurs de manière anonyme par ces gens qui n'ont pas le courage de dire publiquement ce qu'ils pensent, en fait est le reflet d'une campagne de désinformation. Le conseil d'administration de Renault en 2012, avec les représentants de l'État, des syndicats, ont très clairement confié à l'unanimité une mission à Madame Seppéri au sein des RNBV, mission qui devait rester extrêmement confidentielle. Le conseil d'administration n'a pas à être informé des rémunérations des salariés et elle n'a pas été la seule à être rémunérée pour le travail qu'elle a effectué pour l'Alliance, puisque tous les Alliances Directeurs avaient également une rémunération complémentaire.
Oui, Alliances Directeurs, donc hauts dirigeants, mais d'autres ont aussi été rémunérés par RNBV, c'est vrai ça?
C'est aussi ce qu'affirme Renault, mais ça ne serait pas si simple. Il semblerait qu'il y aurait bien eu une enveloppe de 100 000 euros par an pour les administrateurs de RNBV. Mais selon plusieurs sources, seul Mouna Seppéri et un proche de Carlos Ghosn en auraient bénéficié.
Bon, mais en attendant, si cette rémunération correspond vraiment à un travail, Laetitia, encore une fois, là, en quoi c'est un problème?
Eh bien, le problème, il est plus éthique que légal, en l'occurrence. Car être à la fois administrateur et rémunéré pour une mission particulière confiée par Carlos Ghosn lui-même, alors que vous êtes censé le contrôler, ça pourrait s'apparenter à un conflit d'intérêts. J'ajoute que l'audit commandé par Renault et Nissan considère que 11 millions dépensés par RNBV posent question. Il y aurait aussi des voyages privés qui auraient été pris en charge par RNBV. La justice enquête désormais. Quant à Mouna Seppéri, elle a été évincée du comité exécutif de Renault.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu que RNBV servait à rémunérer des consultants dont certains avaient des missions très confidentielles. Maintenant, on a envie de comprendre, Laetitia Chirel, comment pendant autant d'années, tout ça a pu se faire dans une telle opacité? Comment se fait-il que personne n'ait demandé de compte à Carlos Ghosn?
Parce qu'il a fait le vide autour de lui et il commence dès 2005 quand il a succédé à Louis Schweitzer. Il est alors censé quitter la direction de Nissan pour prendre la tête de Renault, mais ça ne va pas se passer comme ça, comme nous l'explique cet ancien dirigeant qui a tenu à conserver l'anonymat.
Quand le moment est venu, un mois avant la succession, Ghosn a dit que celui qu'il croyait être capable de prendre sa succession chez Nissan ne l'était pas, et que pendant quelques mois seulement, il cumulerait les deux présidences. On n'a pas beaucoup réfléchi. Si on avait beaucoup réfléchi, on ne l'aurait pas cru, parce qu'il gagnait beaucoup plus d'argent chez Nissan, 8 millions, qu'il n'en gagnait chez Renault. Donc s'il quittait Nissan pour Renault, il voyait son revenu divisé par deux, et ça lui posait un problème.
Ah donc Carlos Ghosn n'aurait pas tenu sa promesse de quitter Nissan et serait devenu le roi du cumul.
Effectivement, c'est le point de départ d'un système qui va faire de son groupe le numéro un mondial et qui va aussi lui donner tous les pouvoirs. Et c'est justement ce que relève l'analyste financier Loïc Dessin qui dirige Proxinvest, un cabinet de conseil aux actionnaires.
Au fil du temps, on s'aperçoit que Carlos Ghosn est devenu président de Renault et de Nissan et de l'Alliance. Donc, en fait, il présidait tout. Dans ces holdings, en fait, on n'a pas de conseil d'administration avec des administrateurs indépendants, externes, qui contrôlent. Donc, aucun compte à rendre à Nissan et à Renault. Donc, en fait, il a détourné un peu l'objet initial de ces holdings néerlandaises pour créer des sortes de boîtes noires dans lesquelles, après, tout peut se passer et on ne contrôle plus rien.
Et ce système, il a été clairement identifié par Vincent Delavessière de l'agence de communication économique V comme V. Lui a établi un diagnostic du fonctionnement du conseil d'administration de Renault. Et sa conclusion est assez éloquente.
D'abord, c'était un conseil d'administration pléthorique. Ensuite, combien de réunions de ce conseil d'administration? La moyenne des entreprises du CAC 40, c'est 9 réunions par an. Là, il n'y en avait que 5. L'expression que certains journalistes ont utilisée, c'est se goniser, c'est-à-dire faire le vide autour de soi. Ne pas supporter la moindre critique, ne pas recruter des gens qui peuvent émettre des recommandations qui ne soient pas forcément les siennes.
Bon, mais pour qu'il ait pu ainsi se goniser, Laetitia, comme on vient de le dire, il a quand même fallu qu'on le laisse se goniser, non?
Oui, et c'est aussi ce que relèvent plusieurs des anciens cadres ou dirigeants que j'ai rencontrés. eux considèrent que sans la complicité passive des administrateurs de Renault, y compris des représentants de l'État qui siègent dans ce conseil, Carlos Ghosn n'aurait pas eu tant de pouvoir. Et cet ancien dirigeant dont nous avons fait lire les propos le regrette aujourd'hui.
Le conseil d'administration de Renault n'a pas fait son métier. Le métier d'un conseil, c'est de contrôler son patron. C'était aussi le métier du comité d'audit de Renault, qui, dès lors qu'il y avait cette filiale de commandement, aurait dû poser des questions. Et s'il y avait des comptes un peu troublants, il aurait dû en parler au conseil d'administration pour savoir ce qui se passait. Ils ne l'ont pas fait pour ne pas faire de peine au patron.
Bon, mais alors comment faire pour éviter que ces dérives se reproduisent, Laetitia ?
Pour ce qui est de Nissan, un rapport préconise que la majorité des administrateurs soient indépendants. Chez Renault, la fonction de PDG a déjà été scindée en deux, avec un président, Jean-Dominique Sénard, et un directeur général, Thierry Bolloré. Quant à la filiale néerlandaise, RNBV, elle a été mise en sommeil, mais elle n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.
Oui, RNBV, la fameuse filiale donc néerlandaise. Bien, merci Laetitia Chérel. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter sur France Inter et sur l'appli France Inter. On peut la podcaster également et vous pouvez au passage nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF. Mais restez avec nous surtout. Dans quelques instants, tout autre chose, vous saurez tout sur le numéro 1 du vin français et sur ses amitiés africaines.
Darling, our disease is the same one as the trees, unaware. cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. And all this suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? This life.
C'est frais, c'est entraînant, parfait pour l'été. C'était This Life, extrait du quatrième album des New Yorkais de Vampire Weekend.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Leslie Fauvel, bonjour.
Bonjour.
Avec Pierrick Morel, vous avez réalisé un documentaire pour le magazine Complément d'enquête sur France 2. Vous y dressez le portrait de la huitième fortune de France, d'un homme qui pèse 12 milliards d'euros et que tout le monde connaît d'ailleurs sans vraiment le savoir. Il s'appelle Pierre Castel donc, mais en deux mots d'abord peut-être précisez-nous, Pierre Castel c'est qui ?
Pierre Castel c'est le numéro 1 du vin en France et c'est aussi certainement le patron français le plus secret du pays. Tout le monde le connaît sans le connaître, ce sont des produits que tout le monde voit dans son quotidien. Ce sont tous les vins que vous croisez au supermarché, le Baron de l'Estac, la Villageoise, Roche-Mazée, Vieux Pape également. Et c'est aussi le caviste Nicolas, qui est le plus grand caviste de France avec 500 points de vente dans le pays.
Oui, on en parlera tout à l'heure. Alors, il a 92 ans, il n'est pas jeune, mais on va revenir un peu à son enfance pour comprendre d'où il vient. Il est né en 26 dans le Blayais, donc la région de Bordeaux, et lui-même était fils de viticulteur, mais qui était dans une situation extrêmement précaire.
Tout à fait. Lui, il est fils d'immigrés espagnols, donc ses parents sont espagnols et se sont installés dans la région du Blayais dans les années 1920. Ils ont eu 9 enfants. Pierre Castel est le 6e d'une grande fratrie. Et son père était ouvrier agricole. Donc il allait travailler dans les exploitations, surtout viticoles, de la région.
Oui, il a quitté l'école à 12 ans, justement, pour aller travailler dans les vignes. Alors, il comprend très vite quand même ce qu'est le commerce, hein, puisque dans les 30 Glorieuses, il va créer une affaire de vin. Ça se passe dans le quartier des négociants à Bordeaux. C'est là que tout commence.
Absolument. Avec ses 8 frères et sœurs, ils décident de monter tous ensemble une petite affaire de négoce de vin. Donc ils commencent à acheter du vin, à le vendre, les sœurs tiennent la boutique, les frères vont s'approvisionner, livrent. Et très vite, ils s'imposent un peu comme le leader de la famille, de la fratrie en fait, dans les affaires.
Et c'est comme ça qu'à la fin des années 70, il devient donc le roi du vin de table. Il fait travailler des milliers de vignerons déjà.
Oui, absolument. Et surtout, la force de Pierre Castel, ça a été vraiment de profiter de l'essor des supermarchés. C'est-à-dire qu'après, dans la France de la reconstruction de l'après-guerre, c'est l'essor des supermarchés qui ont besoin donc de grands volumes. Et Pierre Castel approvisionne les supermarchés en vin.
Ouais. Alors vous évoquiez tout à l'heure la chaîne Nicolas, qu'il rachète au début des années 90, parce qu'il comprend, et c'est là qu'il a le sens vraiment du commerce, mais que c'est aussi un visionnaire, il comprend que le marché est en train de changer, que le gros rouge justement ça marchera bientôt plus, et qu'il faut se reconvertir dans autre chose. Alors c'est pas vraiment de la qualité, mais c'est quand même un peu de la qualité, où ça a les apparences de la qualité.
Pierre Castel c'est un industriel qui a une vraie vista en fait, donc il s'adapte toujours au marché et il devance même les demandes du marché. Donc en rachetant Nicolas est une vieille enseigne qui date du début du 19e siècle.
Et qui périclite à l'époque.
Voilà, qui est un peu endormi. Et il relance la machine Nicolas. Donc lui, avoir une chaîne de cavistes, ça lui permet non seulement d'écouler ses produits, parce qu'entre temps, il a racheté petit à petit des châteaux dans le Bordelais qui produisent eux-mêmes du vin en bouteille. Donc ça lui permet de placer ses produits-là. Et ça lui permet aussi d'avoir une image de marque un peu plus prestigieuse que la villageoise qu'on trouve en supermarché.
Et c'est dans cette période qu'il va créer le fameux Baron de l'Estac qu'on connaît, qui est pareil, qui est une espèce de vin pas cher à 5 euros, mais qui a les apparences d'un bon vin.
Le Baron de l'Estac, c'est un vin de Bordeaux, hein, il faut bien le dire. Et alors, ce qui est drôle avec le Baron de l'Estac, c'est que l'Estac est un anagramme de Castel. Donc Pierre Castel s'offre un petit titre de noblesse aux débeautés. Et le Baron de l'Estac, oui, est conçu comme, c'est ce qu'on appelle un vin de marque, c'est conçu pour être un vin standardisé qui a toujours le même goût d'année en année.
Et c'est comme ça donc qu'il devient le roi du marché du vin avec un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros par an, donc ce qui est énorme. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va aussi conquérir l'Afrique, et là, ce n'est pas du vin, c'est de la bière.
Absolument. Alors, il se lance, Pierre Castel, en Afrique, très tôt, en fait, parallèlement à son histoire du vin en France. Il a à peine 20 ans et il prend un bateau de Bordeaux et il va dans le golfe de Guinée en Afrique pour écouler des fûts de vin. Et ça marche pas si mal, donc il fait des allers-retours comme ça pendant plusieurs années entre Bordeaux et l'Afrique pour écouler du vin. Et puis un jour, il fait une rencontre déterminante avec Omar Bongo, qui n'est pas encore président du Gabon, mais qui le deviendra très vite, et qui là l'incite à se lancer dans la bière. Je pense qu'il y a un marché porteur pour lui, et Pierre Castel saute sur l'occasion. Il bénéficie alors de l'aide de la présidence du Gabon, qui lui donne un terrain pour construire sa première brasserie.
Alors première, parce qu'après il sera implanté dans 23 pays, c'est un marché énorme. Et si Pierre Castel est quasiment inconnu en France, en fait c'est une star dans beaucoup de pays africains.
Bah oui, surtout grâce à sa bière qui s'appelle la Castelbière. Donc son nom est connu, son visage ne l'est pas et... Peu d'Africains connaissent la personne qui est derrière le groupe Castel, mais il inonde véritablement l'Afrique de bière. C'est le numéro 2 de la bière en Afrique.
Vous dites qu'il serait plus influent aujourd'hui que Vincent Bolloré en Afrique.
Oui, parce que Pierre Castel, ça fait depuis les années 60 qu'il cultive des amitiés personnelles avec des chefs d'État africains. Donc c'est... une longue histoire. Il a connu l'Afrique au moment des indépendances. Il a créé des relations avec ces personnes qui sont arrivées au pouvoir, qui ont gardé le pouvoir pendant des décennies. Et donc, il s'est créé un véritable réseau propre. Et l'un des commentateurs de notre film disent même que voilà, il a créé sa propre France-Afrique à lui tout seul.
Ouais. Et alors, il ne se contente pas de ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un commerçant, un visionnaire, on l'a expliqué. Mais c'est aussi un roi de l'optimisation fiscale. Et alors là, on a des schémas extrêmement complexes avec des fonds qui partent dans des filiales au Luxembourg, à Malte, à Singapour.
L'Empire Castel, c'est une véritable nébuleuse de sociétés. En tout, il a 240 sociétés à peu près. En France et en Afrique. Et toutes ces sociétés, donc, qui sont enregistrées dans des pays différents, sont chapeautées par une société mère située à Gibraltar, qui s'appelle Cassiopée, qui elle-même est gérée par un fonds situé à Singapour. Et à partir de là, ben, on ne sait pas trop ce que devient l'argent.
C'est une toile d'araignée qu'il est extrêmement difficile de décrypter, mais qui laisse penser qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui part dans des endroits où les impôts sont a priori moins élevés qu'en France, sur le territoire français. Lui-même est domicilié en Suisse aujourd'hui.
Tout à fait. Pierre Castel s'est installé en Suisse en 1981, quelques jours à peine après l'élection de François Mitterrand. Il a d'ailleurs déjà dit qu'il ne supportait pas les socialistes. Et Pierre Castel, avec son groupe, a mis en place un schéma d'optimisation fiscale extrêmement sophistiqué.
À la fois personnel et donc industriel. Refus de s'exprimer, il fuit les médias. Vous n'avez pas pu le rencontrer ?
Non. C'est le plus discret et le plus secret. Il n'a donné qu'une poignée d'interviews dans sa vie à la presse spécialisée principalement. Il a effectivement refusé de nous recevoir. C'est pas faute d'avoir insisté. Hein. On est allé toquer un peu à toutes les portes. Et oui, c'est quelqu'un qui restera secret toute sa vie, jusqu'à la fin.
Bien, merci Leslie Fauvel. Et pour ceux qui voudraient le voir en replay, je précise que votre documentaire s'intitule donc « Le Baron du Rouge ». C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et la technique était assurée par Charles Pélabon et Michel Bézikian. Dans quelques instants, regardez voir avec Brigitte Patient. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à dimanche prochain.